mortalité. On meurt de maladies et de causes qui ailleurs, les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble, fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps, c'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte. Tiens, j'ai été formée à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la Fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Bah, ça serait, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays. Et
vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Bah, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors que un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Maintenant, vous allez suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, le spina bifida, qu'est-ce que c'est? Nous jetons un regard. Les hôpitaux du Sénégal sont sous pression à cause de l'augmentation des cas de Covid-19. Ensuite, les drones sont mis à profit dans la lutte contre le coronavirus en Afrique du Sud. Enfin, les insectes sont sur le point de s'inviter à la table des consommateurs européens. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est l'une des anomalies congénitales les plus fréquentes. Le spina bifida est l'une des malformations du tube neural les plus sévères qui ne compromet pas la survie de l'enfant. Il est le plus souvent diagnostiqué pendant la grossesse ou pendant les tout premiers jours de vie du nourrisson. Le spina bifida, du latin signifiant « colonne vertébrale divisée », réfère à la fermeture incomplète de la colonne vertébrale lors du développement fœtal. Cette anomalie est retrouvée le plus souvent au niveau des régions thoraciques inférieures, lombaires et sacrales, affectant de 3 à 6 vertèbres. Les cas de spina bifida varient en gravité dépendamment de facteurs tels que la taille de l'ouverture à l'emplacement sur la colonne vertébrale. Selon les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies des États-Unis, le CDC, plus de 300 000 bébés naissent chaque année dans le monde avec des anomalies du tube neural. La journaliste Amina Chambo de Mombasa partage les difficultés d'une mère et de son enfant de 9 ans atteint de spina bifida.
Salma, une fillette de 9 ans, vit à Mombasa au Kenya. Elle ne peut pas marcher car ses membres sont faibles. Salma est victime d'une maladie connue sous le nom de spina bifida. La mère de Salma a remarqué la complication à la naissance.
Immédiatement après sa naissance, j'ai vu des couleurs sur son dos que je ne comprenais pas. Je l'ai emmenée à l'hôpital et ils ont commencé à l'aider pour résoudre le problème.
Le spina bifida fait référence à une anomalie congénitale qui survient lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement. Lorsqu'un bébé naît avec un spina bifida, il y a une partie du tube neural qui ne se développe pas ou ne se ferme pas correctement, ce qui provoque une anomalie congénitale dans la moelle épinière et dans les os de la colonne vertébrale. Les effets peuvent varier en fonction de la gravité de la maladie ou des dommages causés au nerf de la moelle épinière.
Le spina bifida est une anomalie du tube neurologique, ce qui veut dire que lorsque la mère conçoit, dans les 24 à 28 premiers jours, c'est là que le neurotube est formé. La partie antérieure formera le cerveau et la partie postérieure forme plus tard la moelle épinière, donc ce sont des neurotubes. Le spina bifida fait partie des défauts du neurotube, mais il y a d'autres anomalies. Des défauts peuvent se produire dans le cerveau. Vous avez des patients dont le cerveau n'est pas formé complètement.
La plupart des enfants atteints de spina bifida souffrent d'incontinence intestinale et urinaire. Cela fait d'eux des utilisateurs constants de couches, tout comme Salma.
Selma est une personne qui ne sait pas si elle urine ou elle va à la selle. Nous devons tout faire pour elle. Nous devons la nettoyer. Et parfois, elle a de la fièvre et le paludisme au point que je pense qu'elle va mourir. Mais Dieu nous aide. Parfois, elle fait de la fièvre et cela dure 2 mois.
80% des victimes de spina bifida souffrent également d'une maladie appelée hydrocéphalie. Salma est l'une de ses patientes. Heureusement, son état a été remarqué et traité à un stade précoce. Un shunt a été inséré dans sa tête pour aider à drainer l'excès d'eau du cerveau.
C'est une maladie congénitale. Pour réduire le risque d'avoir un enfant atteint de spina bifida, il faut faire des ultrasons précoces. Avec une échographie, on peut évaluer le fœtus afin que vous sachiez si votre enfant a cette maladie. Vous ne pouvez pas l'empêcher de se produire, mais au moins, vous vous préparez psychologiquement et l'équipe médicale se prépare aussi.
Bien que la cause du spina bifida reste un mystère, certaines études ont suggéré que la raison pourrait être un apport insuffisant d'acide folique dans l'alimentation de la mère qui joue un rôle majeur dans la formation du spina bifida et d'autres anomalies du tube neural.
Le docteur Nadia Kamat est spécialiste en médecine interne en Angola. Elle dit que l'acide folique, une vitamine B, est importante pour les femmes en âge de procréer pour aider à prévenir les anomalies congénitales majeures telles que le spina bifida.
Pour toute femme ayant l'intention de concevoir, l'acide folique doit être encouragé 30 jours à l'avance. Il y a des études qui en soulignent les avantages et pourquoi ? L'acide folique a des fonctions extrêmement importantes dans la formation de divers organes et systèmes, principalement le système nerveux central du fœtus, responsable du tube neural. Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle devrait commencer à prendre de l'acide folique 1 mois avant. Et il est important qu'elle en prenne encore au premier trimestre de la grossesse. Car lorsque le tube neural est mal formé, nous avons des malformations congénitales, dont certaines sont même incompatibles avec la vie. On parle de spina bifida, de paralysie cérébrale. Les bébés naissent sans mobilité, ne bougent pas les bras, ne parlent pas. Certains restent en fauteuil roulant. Tout cela est donc dû à ce nutriment très important qui est juste une pilule par jour appelée acide folique ou vitamine B9. Il fait donc partie des vitamines B. Il est très important que les femmes enceintes prennent l'acide folique, car c'est là que nous aurons des athlètes, des footballeurs, des enfants qui courent, des enfants qui n'ont pas de malformation du système nerveux central. C'est vraiment très important.
Le Sénégal s'attelle à fournir plus de lits dans les hôpitaux pour les patients atteints de coronavirus, alors que les infections augmentent dans le pays. Les responsables de la santé disent que les médecins ne peuvent admettre que les cas les plus graves à cause du manque de capacité. Blanche Sanou raconte.
À l'intérieur de l'hôpital FAN de Dakar, les médecins s'activent pour s'occuper des patients. Répartis dans des pièces clairsemées, ils ont du mal à respirer. Ils sont aidés par l'oxygène et une petite équipe d'infirmières. Tous les lits de soins intensifs sont occupés et les responsables affirment que seuls les cas de Covid les plus graves peuvent être pris en charge.
Ça nous inquiète un peu parce que là, puisqu'on est là tous les jours, on peut dire que parfois il y a la peur ou bien il y a la panique qui est là. En plus, on ne se soucie plus pour notre famille que nous. Parce que là où on est, on peut prendre les mesures. Mais arrivé à la maison, on a peur de contaminer notre famille.
Mais les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Le Sénégal attend des vaccins dans le cadre du programme mondial COVAX, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé a déclaré qu'il espérait également acheter des doses supplémentaires. Mais ses options pour les vaccins sont limitées, sans capacité de stocker les flacons à des températures ultra basses. Les techniciens de l'hôpital FAN installent 7 nouvelles salles pour garder les vaccins COVID à proximité. Mais pour l'instant, le problème de réfrigérateur limite les options du pays.
Dans notre programme actuellement, tous les vaccins que nous utilisons sont des vaccins qui sont stockés entre 2 et 10 degrés. Donc nous avons aussi bien au niveau central qu'au niveau régional, district, au niveau des unités de vaccination, les équipements nécessaires pour stocker les vaccins entre 2 et 8 degrés. Maintenant, si le choix est porté sur d'autres vaccins, donc les vaccins à ARN messager qui nécessitent des stockages à des températures très basses, donc entre moins 70 et moins 80, ces équipements-là ne sont pas encore disponibles au niveau du pays. Donc si l'option était de prendre ces vaccins-là, il y aura un système logistique qui sera à refaire. Donc tout un lot d'équipements à acquérir pour pouvoir stocker et distribuer ces vaccins-là.
Le personnel médical espère que de nouvelles installations verront le jour à temps afin de rouvrir les centres de santé. Une clinique à plusieurs étages avec 70 chambres a été construite à proximité et commencera à recevoir des patients Covid en mars 2021 dans une salle avec un système de purification d'air et des ventilateurs. Au total, le pays compte plus de 40 centres de traitement, 60 lits de soins intensifs et 300 agents de santé formés pour s'occuper des patients Covid.
Les drones aident à diffuser des messages sur la façon de prévenir l'infection à coronavirus dans les zones rurales pauvres et éloignées de la municipalité de Greater Tsanin, dans le nord de l'Afrique du Sud. Les autorités locales ont été les pionnières de l'utilisation de ces avions en Afrique du Sud comme outil pour sensibiliser les gens sur le COVID-19 dans les langues locales Sepedi et Tchanga, tout en surveillant les points chauds de non-adhésion potentielle. Maryse de Clercq en parle de Johannesburg, le récit de Yacouba Ouedraogo.
Le COVID-19 a changé beaucoup de choses en Afrique du Sud. Ici, dans la municipalité de Greater Tsanin, dans la province du Limpopo, dans le nord, la voix du maire vient d'un drone mettant en garde contre le virus potentiellement mortel. Avec seulement 3 hôpitaux dans tout le district, de grands efforts de prévention contre le coronavirus sont nécessaires.
Nous pouvons accéder à tout le monde. Un drone, quand il vole, quand il plane au-dessus des communautés, il fascine, il intrigue les gens. Les gens veulent écouter, les gens veulent entendre quel est le message qui est véhiculé.
Un fournisseur du service de drones agréé transmet la messagerie sur les points chauds potentiels du coronavirus sous la direction de la police et du comité COVID-19 de la municipalité. La municipalité du Grand Tsanin était à l'origine la seule juridiction disposée à utiliser des drones des services de Tizo Aviation, selon le directeur général de la société Jack Kilubana.
Ils ont l'impression que nous parlons de beaucoup d'argent que vous dépensez dans cet exercice. Et d'autres vont probablement demander, mais pourquoi ne pas fournir de l'eau? Et c'est cet équilibre en termes de coût de la technologie, mais aussi de la valeur que vous en tirez dans un exercice comme celui-ci.
Les drones sont bien adaptés à cette fin dans les zones rurales, en particulier en Afrique, car ils offrent plus de valeur à l'argent dépensé, déclare le chef de la Fédération sud-africaine des systèmes d'aéronefs sans pilote.
C'est en Afrique que les drones trouvent une meilleure utilisation, même dans d'autres régions du monde ou dans d'autres pays du monde, simplement en raison des défis particuliers que nous avons. Et quand il s'agit de choses comme votre coût, c'est en fait là que les drones ajoutent beaucoup plus de valeur, car les drones offrent cet avantage où vous pouvez placer tactiquement votre personnel.
Autorités et populations sont unanimes. La diffusion du message sur la prévention du COVID-19 a beaucoup aidé dans la lutte contre la pandémie dans la région des Tsanin.
Séché ou en poudre, le ténébrion meunier ou vert de farine, la décision de l'Agence européenne de sécurité des aliments, EFSA, ouvre la voie à l'utilisation de ces insectes dans diverses recettes et comme farine pour faire des biscuits, des pâtes et du pain. Ces insectes sont déjà en consommation dans une grande partie du monde, y compris dans certaines régions d'Afrique, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Kalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.